Voici Foch, le maréchal. Aragon, moins 20. Breton, moins 25. Éluard, 16. Ribemont-Dessaigne, Soupault et Zara, moins 25. Voici Hegel. Aragon, 10. Breton, 15. Éluard, 6. Zara, moins 25. Voici Lénine. Aragon, 13. Breton, 12. Éluard, moins 25. Soupault, moins 25. Zara, moins 2. Voici Picasso. Aragon, 19. Breton, 15. Éluard, moins 2. Zara, 3. Voici Rimbaud. Aragon, Breton et Éluard, 18. Zara, moins 1. Voici Sade. Aragon, 17. Breton, 19. Éluard, 15. Soupault, 16. Zara, moins 25. Ce moins 25 de Zara s'étend du reste à Dostoïevski, à Eschyle, à Goethe, à Gréco, à Homère, aussi bien qu'à Matisse, qu'à Nerval, qu'à Edgar Poe, qu'à Jean-Jacques et à Henri Rousseau. Comment d'aussi profondes divergences n'eussent-elles pas couvé l'incompatibilité d'humeur?
Ce numéro de mars 1921 contient-il aussi les prémices de la rupture?
Oh, les liens ne se desserrent pas encore. Le principe des manifestations d'Ada n'est pas abandonné. On décide seulement que leur déroulement sera autre. À cet effet, une série de visites-excursions d'un choix très gratuite sont prévues dans Paris, à Saint-Julien-le-Pauvre, au Butte-Chaumont, à la gare Saint-Lazare, au canal de l'Ourcq. Il est entendu qu'on procédera aussi à des mises en accusation entraînant un jugement public. En fait, l'application de ce nouveau programme est tout juste esquissée. La réunion dans le jardin de Saint-Julien-le-Pauvre a bien lieu, mais elle a contre elle la pluie battante et, plus encore, le laborieux néant des discours qui s'y profèrent sur un ton qui se veut provocant. Il ne suffit pas d'être passé des salles de spectacle à l'air libre pour en avoir fini avec le poncif d'Ada. Un mois plus tard, une nouvelle manifestation publique, les mises en accusation et jugements de Maurice Barrès, pour être vu sous son vrai jour, exige un changement d'optique à peu près complet. Si sur les affiches et les programmes, c'est toujours Dada qui mène le jeu, et si de menues concessions lui sont faites dans la mise en scène du procès, un mannequin tient la place de Barrès, magistrats et défenseurs sont bizarrement affublés. En réalité, l'initiative de l'entreprise lui échappe. Cette initiative appartient en propre à Aragon et à moi. Le problème soulevé, qui est en somme d'ordre éthique, peut sans doute intéresser plusieurs autres d'entre nous pris individuellement, mais Dada, de par son parti pris d'indifférence déclarée, n'a rigoureusement rien à y voir. Le problème est celui de savoir dans quelle mesure peut être tenu pour coupable un homme que la volonté de puissance porte à se faire le champion des idées conformistes les plus contraires à celles de sa jeunesse. Question subsidiaire, comment l'auteur d'Un homme libre a-t-il pu devenir le propagandiste de l'Écho de Paris? S'il y a trahison, quel a pu en être l'enjeu? Et quel recours contre elle? Par-delà le cas Barrès, ces questions agiteront longuement le surréalisme.
Il serait intéressant que vous précisiez l'importance de cette manifestation dans vos rapports avec Dada.
La séance dans son ensemble se déroule sur un plan de discussion assez sérieuse. La seule note discordante étant apportée par Zara, qui, cité comme témoin, s'en tient à des propos bouffons et pour finir entonne une chanson inepte. Il n'est que de se reporter au compte-rendu de littérature pour voir combien, en la circonstance, cette attitude est peu appréciée et combien elle l'isole parmi nous. En dépit de ces tiraillements internes, observez que le groupe que nous continuons à former s'est accru de nouveaux éléments de grande importance. Benjamin Perret, qui au procès Barrès tient le rôle force cabreux du soldat inconnu, est entre nous tous celui qui s'est jeté sans frein dans l'aventure poétique. Son recueil, alors sur le point de paraître, Le passager du transatlantique, témoigne d'ores et déjà de tous ses dons. Une liberté d'expression sans précédent. Comme Hugo avait aboli la distinction entre les mots nobles et non nobles, Perret abolit la distinction entre les objets nobles et non nobles. Jacques Rigaud trouve dans le milieu que nous formons l'écho, malgré tout nécessaire, à ces paradoxes de grande envergure, enveloppés de l'humour le plus noir. Un accord de caractère fondamental vient aussi d'être réalisé avec Max Ernst sur la base de ses collages, dont une première exposition s'est ouverte à Paris quelques jours plus tôt. Il n'est pas exagéré de dire que les premiers collages de Max Ernst, d'une puissance de suggestion extraordinaire, ont été accueillis parmi nous comme une révélation. Ceci dit, les vacances de 1921 qui nous réunissent, Max Ernst, Zara et moi au Tyrol, semblent devoir provoquer une détente. Et pourtant, les hostilités véritables vont commencer peu après le retour à Paris. Pour ma part, la certitude m'est venue que Dada, pour retrouver quelques sèves, doit répudier son sectarisme croissant et se réinsérer dans un courant plus large, qu'il est temps d'en finir avec cette politique de vase clos. C'est à cet effet que je propose la convocation d'un congrès international pour la détermination des directives et la défense de l'esprit moderne, dit Congrès de Paris. Le comité organisateur s'en constitue aisément. Il comprend 4 directeurs ou responsables de revues, Aux Enfants pour l'Esprit Nouveau, Paulhan pour la Nouvelle Revue Française, Vitrac pour Aventure, moi pour Littérature, plus 2 peintres, Delaunay et Léger, et un musicien, Auric. Ils se déclarent d'accord pour procéder à la confrontation des valeurs nouvelles, établir le rapport exact des forces en présence, et préciser, autant que possible, la nature de leurs résultantes. Mais la polémique va très vite se déchaîner. L'obstruction inévitable de Zara et les voies sinueuses qu'elle emprunte m'entraînent, je ne fais pas de difficulté à le reconnaître, à une maladresse. Pour ne pas nommer Zara, qui s'efforce de faire obstruction à l'entreprise et de lui ôter l'occasion de manœuvres dilatoires sans fin, j'use, dans un communiqué du Congrès destiné à mettre en garde contre ce sabotage, d'une périphrase malheureuse. Le promoteur d'un mouvement venu de Zurich. Il va sans dire qu'il s'en empare aussitôt pour me convaincre, dans une sphère qui excède de beaucoup celle de Dada et s'étend à de nombreux éléments qu'il feignait jusqu'alors de mépriser, de nationalisme et de xénophobie. À lui cette manche. Bien assez d'années depuis lors ont répondu pour moi de l'inanité de ces accusations, mais j'ai toujours admis que cette formulation de ma part avait été fâcheusement équivoque. Le congrès de Paris n'eut pas lieu.
Mais il semble qu'à partir de là, Dada a plus que du plomb dans l'aile.
Certes. Le salon Dada, même dans l'esprit de ceux qui y participent, fait fiasco. Surtout par suite de la non-participation de Marcel Duchamp, sur qui les organisateurs comptaient très spécialement, et qui se borne à câbler d'Amérique les mots « peau de balle ». Mais je ne m'étendrai pas sur les phases de cette périclitation. Dès le printemps de 1923, Dada, depuis plus de 2 ans fort malade, entre en agonie. Son dernier sursaut sera la soirée du cœur à gaz en juillet. L'ère du surréalisme proprement dit a commencé.
Il ne serait pas inutile, cependant, de rappeler quelques événements de cette phase de renaissance.
Le temps d'en finir avec certains regrets, certaines faiblesses d'ordre sentimental. Et littérature, nouvelle série, reparaît sous ma seule direction. Un noyau éprouvé pour sa cohésion et sa solidité est constitué par Aragon, Éluard, Ernst, Perret et moi. Dès ce moment, un autre noyau d'activité est venu fusionner avec lui, qui se compose de Jacques Baron, René Crevel, Robert Desnos, Max Maurice et Roger Vitrac. On n'enregistre sur l'époque précédente aucune déperdition d'énergie, bien au contraire. Une conférence donnée par moi à Barcelone au cours d'un voyage avec Picabia rend assez bien l'atmosphère de cette époque. Sous le titre « Caractère de l'évolution moderne et ce qui en participe », elle prend place dans mon ouvrage « Les pas perdus ». L'écriture automatique connaît alors un très grand regain et plus que jamais l'attention commune est attirée sur l'activité onirique. Tout ce qui préoccupe alors les uns et les autres est jeté quotidiennement sur le tapis et donne lieu dans l'ensemble à des débats très animés, très cordiaux. Des rivalités surgiront plus tard. Je crois pouvoir dire qu'est mise en pratique entre nous, sans aucune espèce de réserve individuelle, la collectivisation des idées. Si l'on peut parler à propos de surréalisme, comme l'a fait Monroe dans « La poésie moderne et le sacré » de Bund, au sens de groupe, dont les membres ne sont liés que par des liens d'élection, force est de constater que c'est là, définitivement, qu'ils s'agrègent. Nul ne cherche à rien garder pour soi, chacun attend la fructification du don à tous, du partage entre tous. Et rien n'est alors, en effet, plus fructueux. Quand je vois aujourd'hui des esprits par ailleurs notables se montrer si jaloux de leur autonomie, tenir si manifestement à emporter leurs petits secrets dans la tombe, je me dis qu'on a rétrogradé. Et qu'en ce qui les concerne, quoi qu'ils en pensent, ils ne tiennent pas le bon bout.
Pourriez-vous, Monsieur Breton, nous préciser si durant la période qui va de la fin de Dada à la publication du manifeste surréaliste, vous aviez déjà des perspectives précises?
Précises serait beaucoup dire. Tous alors, nous sommes d'accord pour penser qu'une grande aventure est à courir. Lâchez tout, partez sur les routes. C'est mon thème d'exhortation à cette époque. Rimbaud n'est pas oublié. Ni son ami Germain Nouveau, dont nous savons quelle persévérance il a mise à errer avant de s'immobiliser dans la posture du mendiant au portail de l'église d'Aix. Mais sur quelle route partir? Des routes matérielles, c'était peu probable. Des routes spirituelles, nous les voyons mal. Toujours est-il que ces deux sortes de routes, l'idée nous vint de les combiner. D'où une déambulation à quatre, Aragon, Maurice, Vitrac et moi, entreprise vers cette époque à partir de Blois, ville tirée au sort sur la carte. Il est convenu que nous irons au hasard à pied tout en devisant, ne nous permettant de crochets volontaires que ce qu'il faut pour pouvoir manger et dormir. Entreprise dont l'exécution s'avère très singulière et même semée de périls. Le voyage prévu pour une dizaine de jours et qui sera abrégé prend presque d'emblée un tour initiatique. L'absence de tout but nous retranche très vite de la réalité, fait lever sous nos pas des fantasmes de plus en plus nombreux, de plus en plus inquiétants. L'irritation guette, et même il advient, entre Aragon et Vitrac, que la violence intervienne. Tout compte fait, exploration nullement décevante, quelle qu'ait été l'exiguïté de son rayon, parce qu'exploration aux confins de la vie éveillée et de la vie de rêve, par là on ne peut plus dans le style de nos préoccupations d'alors.
C'est-à-dire conforme à votre souci d'explorer le subconscient.
Précisément. Et d'ailleurs, le temps est venu où ces préoccupations vont se découvrir un terrain électif. Ce terrain sera celui du sommeil provoqué ou hypnotique, à l'expérimentation duquel nous allons nous livrer chaque soir durant des mois. Bien que j'ai été autrefois l'élève de Babinski, soit du pire détracteur des thèses de Charcot et de l'école dite de Nancy, je garde alors, pour ma part, un intérêt très vif, quoique défiant, pour une partie de la littérature psychologique axée ou articulée sur cet enseignement. Je pense en particulier au bel ouvrage de Myers, La personnalité humaine, aux passionnantes communications de Théodore Flournoy à propos du médium Hélène Smith, des Indes à la planète Mars, etc. Voir un certain chapitre du traité de métapsychique de Charles Richet. Tout cela trouve à se lier, à se conjuguer avec mes autres façons de voir, à la faveur de l'admiration enthousiaste que je porte à Freud et dont je ne me départirai pas par la suite. Freud m'a reçu en 1921 à Vienne, et bien que par un regrettable sacrifice à l'esprit dada, j'ai fourni dans littérature une relation dépréciative de ma visite, il a eu la bonne grâce de ne pas m'en garder rigueur et de rester en correspondance avec moi. Les expériences de sommeil, bien qu'antérieures à la publication du premier manifeste, font partie intégrante de l'histoire du mouvement surréaliste. Les déclarations théoriques du manifeste reposent non moins sur elles que sur les spéculations auxquelles a conduit le recours de plus en plus étendu à l'écriture automatique. Il se passe de toute autre base de soutènement.
À ce sujet, je crois qu'il serait intéressant que vous analysiez les aspirations et les conceptions qui ont déterminé toutes vos recherches, celles de vos amis, dans le domaine du subconscient.
Il importe au départ de bien saisir l'unité de la démarche qui préside à la pratique de l'écriture automatique, à l'étude des manifestations auxquelles donne lieu le sommeil provoqué. Dans les deux cas, ce qu'il s'agit d'atteindre et d'explorer n'est autre chose que ce qu'on appelle les états seconds. Vous me demandez d'où vient la prédilection que nous avons pu marquer à ces États. C'est bien simple. Ce qui nous a passionnément intéressés en eux, c'est la possibilité qu'ils nous donnaient d'échapper aux contraintes qui pèsent sur la pensée surveillée. L'une de ces contraintes, et la plus grave, c'est l'assujettissement aux perceptions sensorielles immédiates qui, dans une grande mesure, fait de l'esprit le jouet du monde extérieur. Je veux dire que, dans les conditions normales de l'idéation, nous ne pouvons nous abstraire que partiellement de ce qui tombe sous nos yeux, frappe notre oreille, etc., et que les impressions qui en résultent, du fait de leur caractère parasite, ne peuvent manquer de fausser le cours de cette idéation. Une autre contrainte non moins rigoureuse et que nous éprouvions le besoin irrésistible de secouer, c'est celle que fait peser l'esprit critique sur le langage et d'une manière générale sur les modes les plus divers d'expression. Nous estimions, et pour ma part j'estime encore, que si l'on voulait soustraire ces mondes d'expression à la sclérose de plus en plus menaçante, rendre le verbe humain à son innocence et à sa vertu créatrice originelle, il était indispensable de couper les entraves qui le rendaient incapable de tout nouvel essor.
Oui, mais votre ambition n'était pas cependant d'ordre poétique, nous le savons. Quelles sont donc ces entraves que vous vouliez briser, ces limites qui paralysaient votre action?
Ces entraves étaient de l'ordre de la logique. Le rationalisme le plus étroit veillait à ne rien laisser passer qui n'eût été estampillé par ses soins, de l'ordre de la morale, sous forme de tabous sexuels et sociaux, de l'ordre enfin du goût, régi par les conventions sophistiques, du bon ton, peut-être les pires de toutes. Ce prétendu sens critique dont, bon gré mal gré, nous avions hérité comme les autres, nous constations que son rôle à notre époque était de freiner toute spéculation intellectuelle de quelque envergure. Nous nous refusions à la tenir pour la voie du bon sens, mais bien plutôt pour celle du sens commun le plus éculé. Dans ce sens critique qu'on nous avait appris à cultiver à l'école, nous étions d'accord pour voir l'ennemi public numéro un.
Sans doute, mais qu'opposiez-vous donc à ce sens critique?
Mais l'appétit de merveilleux, tel qu'il n'est pas impossible de le raviver au souvenir de l'enfance. On ne peut plus à contre-courant, en violente réaction contre l'appauvrissement et la stérilité des modes de pensée, qui étaient l'aboutissement de plusieurs siècles de rationalisme, nous nous sommes tournés vers le merveilleux et nous l'avons prôné de manière inconditionnelle. Une phrase du manifeste de 1924 est à cet égard assez péremptoire. Tranchons-en, le merveilleux est toujours beau, n'importe quel merveilleux est beau, il n'y a même que le merveilleux qui soit beau.
Et je souhaiterais que vous nous précisiez les méthodes et la technique que vous utilisiez dans vos explorations de l'inconnu.
Je pense qu'on voit assez dans quelle disposition d'esprit nous avons cherché à aborder ces états seconds qui ont été à l'origine le terrain d'élection du surréalisme. À cette occasion, je ne m'abstiens pas en passant de faire justice de l'accusation de paresse qui est portée périodiquement contre qui s'adonne ou s'est adonné avec plus ou moins de persévérance à l'écriture automatique ou à toute autre forme d'activité du même genre. Pour que cette écriture soit véritablement automatique, il faut en effet que l'esprit ait réussi à se placer dans des conditions de détachement par rapport aux sollicitations du monde extérieur, aussi bien que par rapport aux préoccupations individuelles d'ordre utilitaire, sentimental, etc., qui passe pour être beaucoup plus du ressort de la pensée orientale que de la pensée occidentale, et suppose de la part de cette dernière une tension, un effort des plus soutenus. Encore aujourd'hui, il me paraît incomparablement plus simple, moins malaisé, de satisfaire aux exigences de la pensée réfléchie que de mettre en disponibilité totale cette pensée de manière à ne plus avoir d'oreille que pour ce que dit la bouche d'ombre. Il ne manque pas aujourd'hui d'ouvrages qui rappellent en quelles circonstances une première phrase de type automatique et comme survenante à la cantonade s'est imposée à mon attention, et j'ai exposé longuement dans le premier manifeste comment Soupeau et moi sommes parvenus à obtenir un débit régulier qui fut du même timbre. Je me bornerai à rappeler que pour obvier Une monotonie indéniable, nous avons très tôt été portés à varier les vitesses de captation du message automatique, depuis l'écriture à peu près posée jusqu'à celle qui est assez rapide pour pouvoir tout juste se relire. Cette dernière est de loin celle qui paraît la plus riche en trouvailles, ce qui laisse à penser que la notation sténographique pourrait donner des résultats bien meilleurs, mais je ne sache pas qu'elle ait jamais été tentée.
Il me semble aussi que l'écriture automatique fut diversement utilisée au sein même du mouvement surréaliste, et pas toujours dans l'esprit des premières expériences.
Oui, je ne me suis pas fait faute de mentionner les vicissitudes que l'écriture automatique avait pu connaître dans le surréalisme. La principale de ces vicissitudes tient au fait que, entre ceux qui s'y livraient, la compétition sur le plan esthétique n'a pu être complètement évitée, et qu'au moins a posteriori, un choix s'est établi, ne laissant subsister que des bribes du message considérés comme les mieux venus. À vrai dire, cela n'a pas tant d'importance qu'il peut paraître. L'essentiel est que le climat des productions automatiques se soit fait sentir, que l'esprit ait eu vent d'une contrée dont la flore et la faune sont reconnaissables entre toutes, mais surtout dont la structure, apparemment la même pour tous, ne demande qu'à être révélée. La grande difficulté est d'amener chacun à tenter cette reconnaissance pour lui-même, de le persuader que cette contrée n'est pas ailleurs, mais en lui, et de le déterminer à se délester de tout bagage, de manière à avoir le pas assez léger pour franchir le pont qui y mène. Il m'a semblé que l'on trouverait tôt ou tard un moyen de passer à volonté de cet autre côté et de revenir par ici également à volonté, sans s'imposer de discipline particulière et comme s'il suffisait d'appuyer sur un bouton. Toutes les perspectives du monde seraient ébranlées, mais je crois aussi que la vraie vie dont parle Rimbaud commencerait.
À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. André Breton s'entretenait avec André Parineau. Un document archive de l'INA. Demain, quatrième entretien.